Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Radio Campus Paris.
Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Myriam Marzouki pour parler de sa pièce « Je me souviens de la Terre » jusqu'au 30 mai au Théâtre de la Concorde. En chronique, on vous parlera des Brel, des Anne Teresa de Kersmacher et Solal Mariotte au Théâtre de la Ville du 11 au 20 mai, l'avenir des reflets de Lazare du 19 mai au 20 juin au Théâtre de la Colline et on terminera avec la lettre d'Émile Orau du 20 au 30 mai au Théâtre public de Montreuil, mais ça n'ordre les murs. Mais on commence par l'interview. Alors Thomas, la parole c'est à toi.
Ben oui, on va parler de « Je me souviens de la Terre », qui est une pièce qu'on pourrait dire opératique, dans le sens d'un art total, pour aborder la question de la lutte contre l'accaparement des ressources, la question de la défense de nos biens communs. Myriam Marzouki, qui est avec nous, fait appel à tout l'arsenal du théâtre. De belles images tableaux qui rappellent l'esthétique de Georges de la Tour, une langue au lexique soutenu pour aborder la fiction, des témoignages qui font vibrer le spectacle vers le documentaire, des changements de plateau onirique où une table devient un radeau sur un lit de fumée, des chants qui émeuvent et font respirer la dramaturgie, une chorégraphie minimaliste et pas du tout ostentatoire à coups de slow motion et reverse. Merci vraiment pour ce beau spectacle, Myriam Marzouki. Et je commencerai par la fin. La question finale adressée à l'un des protagonistes, mais qui pourrait tout aussi bien s'adresser à nous, spectateurs. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Comment avez-vous pensé cette adresse finale? Est-ce qu'il s'agit de rendre la parole au spectateur, de le mettre au travail, ou de refuser de conclure à sa place? D'autant que lorsque l'on parle de violence d'État, de lutte écologique ou de bien commun, il semble qu'il ne peut pas vraiment y avoir de débat.
Alors le débat, il a eu lieu entre les personnages pendant la pièce et en particulier pendant la longue scène finale qui va se conclure par cette question qui reste sans réponse. Pour nous, il était important de mettre le spectateur en mouvement par tous les moyens que vous avez décrits, le mettre en mouvement de façon sensible, imaginaire, émotionnelle, intellectuelle aussi, qu'il pense, qu'il soit... transporté dans des époques, qu'il soit déplacé et que tous ces déplacements n'aboutissent pas finalement à un point de résolution qui serait notre message ou notre certitude, mais de laisser les choses ouvertes et que chaque spectateur puisse ensuite poursuivre l'ensemble des échos qui se sont affrontés. Et je crois que de toute manière, la question de la fin au théâtre, on doit la résoudre poétiquement. Et donc la réponse, elle devait venir par une image scénique, elle devait venir par...
Il y a un chant.
Par une résonance, voilà. Merci. Et donc de finir par la musique. Et c'est vrai qu'on dit qu'à l'opéra, on se met à chanter parce qu'à un moment, on n'arrive plus à dire les choses en parlant et donc il faut chanter. Et je crois que, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'importe aussi. C'est qu'à un moment, on peut passer d'un langage à l'autre. Et je pense que le langage musical, en particulier quand on s'affronte comme ça à des choses qui sont tellement ancrées dans le réel, dans le présent, dans l'urgence, dans la dureté du réel politique, à un moment, il faut se dire que la musique peut aussi permettre d'ouvrir une autre perspective.
Et votre théâtre, sans être didactique, pédagogique, semble fortement inspiré par votre formation normalienne, philosophe. Il y a par exemple ces questions qui s'enchaînent, comme dans une bonne introduction de dissertation, que devient la démocratie quand elle confond ses citoyens et ses ennemis, ou ces phrases qui résonnent comme des sujets potentiels, c'est pas ma faute si la force gouverne à la place de la justice. Ces aphorismes aussi, celui qui ne rêve pas est déjà mort. Est-ce que la philosophie permet ici de présenter la difficulté contemporaine à formuler une pensée politique commune, à montrer que la parole collective se cherche, se reprend, hésite presque par définition?
que ma formation philosophique nourrisse mon approche du théâtre, c'est une évidence, parce que de toute manière, on fait du théâtre avec ce qu'on est et on fait du théâtre avec la manière dont on s'est formé intellectuellement. Et donc, la philosophie, elle a effectivement été structurante pour moi. Elle a été structurante dans deux choses qui demeurent dans le théâtre que je fais, c'est-à-dire prendre le risque du sens, c'est-à-dire chercher le sens. Et je pense que dans cette ligne de crête que je cherche dans mon théâtre, qui est de ne sacrifier ni le sens, ni la beauté, l'esthétique, les images, je sais qu'il y a toujours un risque à chercher le sens. Parce qu'effectivement, on peut tomber effectivement, du côté de ce qui serait le didactisme, qui est souvent considéré dans le milieu théâtral comme un gros mot. Moi, je pense que ça n'est pas un si gros mot que ça, parce que je pense qu'il y a aussi parfois une manière de se cacher derrière l'esthétique et de ne pas prendre le risque du sens. Et qu'on est aujourd'hui dans une époque très confuse où derrière des esthétiques diverses se trament des fois des alliances de sens qui sont extrêmement dangereuses.
C'est-à-dire des rapports de pouvoir.
Oui, c'est-à-dire que l'esthétique, elle est elle-même politique. C'est-à-dire qu'il y a des esthétiques, les esthétiques du choc, les esthétiques de l'effroi, des esthétiques très machistes, des esthétiques très virilistes qui peuvent être aussi des endroits de grande confusion du sens. Donc moi, j'essaye, et ça, c'est ce que la philosophie m'a appris, c'est que le sens, on ne peut pas le lâcher, parce que si on lâche le sens, on lâche l'humanité. Et dans le même temps, évidemment, le théâtre n'est pas l'endroit de l'énonciation discursive, n'est pas l'endroit de la démonstration, n'est pas l'endroit de la logique rationnelle. Il y a d'autres logiques. Et donc voilà, c'est un peu sur cette ligne de crête d'un sens qui se déploie aussi dans le sensible que je fais du théâtre.
Oui, moi je voulais revenir au début sur ce choix qui a été fait d'avoir... Je parle pas assez fort, c'est ça ? Eh ben, pour une fois qu'on me dit ça, je vais en profiter. Je disais, oui, le choix qui a été fait, ça a été cette dichotomie complète entre une première partie, je ne sais pas s'il faut la qualifier de conte ou de fable, et une deuxième qui est beaucoup plus explicite, ce choix de forme. Il s'est imposé de lui-même, il est venu pour créer un équilibre ?
Il était là depuis le début, parce qu'il y avait dans le projet que j'ai conçu avec Sébastien Lepauvin qui signe le texte, il y avait l'idée de travailler sur le temps long de l'histoire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de toute manière au théâtre, hein, c'est comment est-ce qu'on peut faire résonner les voix du passé, comment est-ce qu'on peut, dans cet art de l'éphémère, de l'instant présent, du temps présent de la représentation, comment est-ce qu'on peut convoquer le passé et l'histoire ? Alors moi, c'est quelque chose que je convoque visuellement par le travail sur la peinture, sur les imaginaires collectifs visuels, mais il y avait là plus qu'une envie esthétique, il y avait aussi une envie dramaturgique, c'est-à-dire de raconter une histoire qui prend ses racines, qui débute au sens de la chronologie du spectacle, mais qui débute aussi dans la chronologie dramaturgique qui débute il y a longtemps. Alors ce temps, il n'est pas défini. Quand on voit ce qui se déploie au plateau, on peut se dire qu'on est à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, mais il y a des éléments qui pourraient aussi laisser penser qu'on est peut-être au 19e siècle. Enfin, en tout cas, il y a quelques siècles, parce qu'on a aussi documenté des luttes qui sont finalement peu racontées, puisque ce dont il est question dans le spectacle, c'est la lutte, la résistance populaire contre l'accaparement des terres. Ces luttes, elles ont commencé il y a très longtemps et les historiens font remonter aussi aujourd'hui des histoires de vaincus, des histoires qu'on ne raconte pas assez. Alors après, du point de vue théâtral, cette première partie, on peut la lire de plein de manières différentes. Soit on se dit que ce sont les aïeuls, les prédécesseurs des personnages d'aujourd'hui et qu'il y a finalement une histoire d'avant et une histoire d'aujourd'hui. Nous, on s'est dit aussi que la première partie pouvait être le rêve, le fantasme onirique que les personnages d'aujourd'hui se font, comme dans le travail du rêve, où finalement on recompose des éléments réels dans une configuration imaginaire. Ou bien se dire qu'en effet, c'est un conte inaugural qui raconte avant la mobilisation sous la forme d'une fable, et que dans la deuxième partie, on raconte ce qui se passe après la mobilisation à laquelle ont participé les personnages. Donc, toutes ces interprétations sont possibles, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne s'est pas imposé dans le travail, mais qui était là dès le début. Moi, je voulais travailler sur l'idée qu'il y a des choses qui s'inscrivent dans le temps long. Et puis, j'aime aussi l'anachronisme au théâtre. Et puis, j'aime le fait de pouvoir changer de temporalité, parce qu'on va travailler la lumière, qu'on va travailler les costumes. Et dans le même temps, ce n'est pas un spectacle à costumes, puisque c'était un peu le challenge pour la costumière. Tous les vêtements portés par les personnages, les comédiens au début, sont des éléments, enfin des vêtements du vestiaire contemporain, sauf que portés d'une certaine manière, éclairés d'une certaine manière, on a l'impression d'être dans un tableau de Georges de la Tour ou du Caravage, alors que ce sont des vêtements qu'on a trouvés dans des magasins, ce ne sont pas des pièces historiques. Voilà, donc moi, c'est aussi mon plaisir poétique de se dire qu'on peut changer d'époque alors qu'on est juste sur un plateau de théâtre.
Et vos personnages portent des prénoms assez marqués socialement, hein, disons-le vite, des prénoms de Bobo, Pacôme, Mao, Catel, William, Marceau. Et vos interprètes ont des corps qui ouvrent d'autres imaginaires, d'autres histoires politiques possibles. Comment avez-vous pensé cette relation entre nom, corps et représentation sociale ? Est-ce que la question coloniale faisait partie de vos préoccupations pendant l'écriture ou la distribution ? Est-ce que vous avez voulu inscrire les violences policières liées aux luttes écologiques dans une histoire plus vaste des violences d'État ?
Alors c'est amusant que vous parliez de prénoms de Bobo parce que en fait les prénoms ils ont été choisis justement à partir de cette attention à ce qui était au départ plutôt une référence assez précisément médiévale et puis qui ensuite s'est un peu estompé. Donc le choix de ces prénoms était plutôt un choix de prénoms qui ont traversé les époques. Et donc en réalité si Mao est devenu un prénom Bobo aujourd'hui, M-A-H-A-U-T, c'est parce qu'il y a une sorte de revival du prénom désuet peut-être... mais en réalité, nous, notre point de départ, c'était plutôt de choisir des prénoms parce que dans une dramaturgie antérieure, cette dimension, ce référentiel médiéval était beaucoup plus présent dans l'écriture et même dans nos projections, dans notre manière d'envisager cette première partie. Donc, ces personnages, on les a nommés ainsi parce qu'on s'est dit qu'on voulait leur donner des personnages, bon, on voulait donner aux personnages des noms qui étaient crédibles dans un temps, il y a plusieurs siècles, hein, et qui pouvaient rester crédibles aujourd'hui. Pour ce qui est de la question coloniale, elle est à la fois pas du tout présente et en même temps présente.
Elle est présente sur le plateau.
Alors, elle est présente sur le plateau, mais d'une certaine manière, moi j'ai envie de dire, c'est comme la question féministe. Ce sont des engagements qui me sont extrêmement précieux et je pense qu'on est dans un moment où on doit procéder autrement, c'est-à-dire que plutôt que de brandir des étendards, plutôt que d'avoir des slogans, il faut faire. Et donc par exemple, moi je fais avec des acteurs avec qui je travaille depuis longtemps. Et dans mon équipe, il y a effectivement des interprètes qui s'appellent Mounira Barbouche, Yacine Arada, Rita Serrage, Maxime Chibangou. Et ces acteurs, je ne les ai pas choisis parce que je me suis dit je veux des Noirs et des Arabes au plateau, mais parce que je travaille avec eux depuis longtemps et je me suis dit à un moment, raconter une histoire où il n'est question ni de racisme, ni d'islamophobie, ni de colonialisme, mais simplement avoir ces corps sur scène et que ces personnages soient crédibles en tant que personnages qui racontent une histoire plutôt ancrée dans l'Occident, c'est une manière de faire le travail.
Come ti inganni se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita, è breve il gioire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non voyons sberate, minarie bravate, che caglia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova, che plachi l'ardire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere il suo nodo, non vale fuggire, bisogna morire. Comune il statuto, non vale la storia.
questo colpo schermire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. La morte crudele, a tutti è infedele, ognuno svergogna, morire bisogna. È pura pazzia, o gran frenesia, partirsi menzogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Si muore cantando, si muore suonando, da cedra o zampogna, morire bisogna. Si muore danzando, bevendo, mangiando, con quella carogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. I giovani tutti e gli uomini tutti sanno incenerire, bisogna morire, i sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutta a finire, bisogna morire. E quando che meno ti pensi nel seno, ti viene a finire, bisogna morire. Se tu non vi pensi, hai persi i sensi, sei morto e puoi dire, bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Nous sommes toujours en compagnie de Myriam Marzouki pour parler de sa pièce « Je me souviens de la terre ». Nous avons écouté notre premier morceau de la soirée « Passacaglia della vita » de Stefano Landi par Marco Besley et « L'arpeggiata di Cristina Pluart ». Je te laisse la parole, Julien.
Ah bah, d'abord, on va oui. rester sur ce morceau puisque c'était un choix de Myriam Marzouki. Alors pourquoi ce choix ?
Parce que c'est un chant qui aurait pu être dans le spectacle. Voilà, j'ai eu beaucoup de désirs de musique. Et puis, il y a aussi des morceaux que j'écoute qui inspirent finalement des images, comme ça, des espèces de paysages qui sont suscités par la musique. Et ce chant aurait pu y être parce que c'est un chant baroque, un peu un tube. Moi, j'aime énormément cette interprétation aussi. C'est une passacaille, donc c'est un morceau qui est dansant, qui a quelque chose d'extrêmement festif et joyeux. Et en même temps, le texte dit « N'oublie pas que tu vas mourir, enfin parce que tu vas mourir ». Donc c'est un memento mori et j'aime cette, voilà, cette espèce de tension qu'on ne perçoit pas forcément si on écoute juste la musique. Mais dans la parole, enfin dans les paroles, il y a un propos dur et cette alliance entre la joie et la dureté, elle me plaît beaucoup. Et le chant aurait pu être, puis à un moment, il a fallu faire des choix. Il n'y est plus, mais il est en creux dans le spectacle.
Et donc, dans ce spectacle, Je me souviens de la terre, dont nous en parlions juste avant le morceau, on parlait de la question de l'accaparement des terres, la question des corps qui rappellent l'histoire coloniale avant même temps que les prénoms, eux, se plongeant, ce que vous disiez, juste plus dans l'histoire des prénoms médiévaux, eux sont justement déconnectés de ça. Et la question que j'avais envie de poser, c'était justement cette histoire coloniale par rapport à cette question de l'accaparement des terres. Étrangement, ça résonne sans être formellement exprimé dans le spectacle. Est-ce que c'est quelque chose qui était en creux, quelque chose qui s'impose de toute façon ?
Il y a eu dans le processus d'écriture des passages qui ont été à un moment coupés parce que pour toutes sortes de raisons, mais en tout cas c'est notre manière de travailler avec Sébastien, il y a un texte au départ et puis ensuite on fait beaucoup d'essais, on fait des tentatives au plateau, puis le texte s'écrit au fur et à mesure et il est coupé progressivement pour toutes sortes d'exigences dramaturgiques, esthétiques, etc. Et donc parmi les thématiques qui étaient peut-être plus présentes, il y avait la question de l'espoir du nouveau monde qu'on retrouve encore dans le spectacle au moment où les personnages fuient et ont l'illusion qu'ils vont refaire société dans un nouveau monde, ce qu'ils appellent l'avant-pays pays, et ils vont se retrouver dans un monde qui est devenu invivable et qui est le nôtre. Bon, tout ça étant traité de façon elliptique et métaphorique, mais en tout cas dans ce moment-là, avec ce départ vers le nouveau monde, l'ancien monde qui va vers le nouveau monde, il y avait de façon plus explicite la question de l'espoir qui a animé l'Europe à un moment de trouver ailleurs des ressources, et cet espoir a correspondu au grand moment colonial. Et donc en réalité il y avait en creux à ce moment-là la question que vous évoquez, mais qui a été un peu estompée parce que comme d'autres moments, le texte s'est écrit au fur et à mesure avec des exigences rythmiques, dramaturgiques qui font que la thématique, elle est encore présente peut-être là autour de cette question de l'ailleurs, de l'idée qu'il y a un ailleurs et qu'en fait ces ailleurs ont été détruits par la prédation coloniale, par l'expansion européenne. Et donc voilà, en sous-texte, c'est à cet endroit-là du spectacle que la question que vous posez est encore présente.
Et pour creuser cette question de l'implicite et de l'explicite, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est cette question des extraits sonores qui sont très explicites, puisque là, clairement, on est dans les sons les fameuses vidéos des violences policières de Sainte-Soline. Mais à côté de ça, je dis Sainte-Soline, mais ce n'est jamais dit tout en étant tout le temps évoqué. J'avais dit tout de suite en sortant du spectacle à Thomas un truc qui m'avait étonné, c'était le terme même des châteaux d'eau privés, pour ne pas dire les méga-bassines. Ce choix justement là, de l'implicite, de l'explicite, de ce qu'on évoque tout le temps sans le dire clairement.
Oui, c'est un choix.
Oui.
C'est un choix parce que d'abord, la question des méga-bassines, c'est une question parmi d'autres. Mmh. Et les événements de Sainte-Soline sont emblématiques, mais ils ne sont que la pointe émergée d'une constellation de violences qui sont nationales et internationales, plus ou moins connues. Et donc, le fait de dire méga-bassine, tout de suite, ça réduisait le propos à un événement. Et notre fable, notre histoire, notre fiction, elle va bien au-delà de la question de ce processus, de cet événement. Donc voilà, c'est pas par pudeur, c'est pas par peur, c'est plutôt...
Ça se déploie, c'est-à-dire que le fait de dire château, ça renvoie, et privé, ça renvoie à ce que c'est-à-dire vraiment un accaparement avec des classes sociales, c'est-à-dire que ça va complètement dans le sens de votre propos, en fait. C'est-à-dire que méga-bassine, c'est comme très souvent un espèce d'euphémisme pour cacher la réalité des choses. Et château d'eau privé, c'est parfait, en fait.
Et puis château d'eau privé, voilà, il y avait la résonance avec le château médiéval, enfin voilà, donc c'était un choix qui était un choix poético-politique et qui nous semblait pertinent par rapport à l'endroit d'écriture du spectacle, qui en effet est une écriture extrêmement documentée, mais qui ne se présente pas d'un point de vue dramaturgique et esthétique comme du théâtre documentaire. Mmh. Si on avait fait un spectacle de théâtre documentaire, alors on aurait fait entendre des gens qui ont été à Sainte-Soline, enfin on aurait fait un autre spectacle,
oui,
et c'était pas du tout ce que je voulais faire avec Sébastien.
Vos personnages semblent découvrir la violence d'État au moment où elle les frappe. Ils présentent même une forme de naïveté militante en croyant que défendre le bien commun devrait protéger de la violence. Est-ce que cette découverte, presque cette sidération et cette naïveté ont pu être intéressantes pour vous ?
Elle était un ingrédient déterminant dans l'écriture des personnages. On était vraiment préoccupé par l'idée de ne pas faire une pièce sur un groupe militant. Ça nous intéressait beaucoup plus de raconter comment est-ce que des personnes plus ou moins politisées, avec différentes nuances de politisation, de conscientisation, de rapport à la violence, de rapport à l'égoïsme, de rapport à la peur, pouvaient se retrouver participer à un événement qui les réunissait, mais surtout pas présenter... ça aurait pu être tout à fait intéressant. Enfin, qu'est-ce que c'est que la structuration d'un groupe militant, comment un groupe militant évolue dans le temps, comment est-ce que il se transforme, etc. Enfin, voilà. Mais nous, on voulait vraiment raconter une histoire qui soit celle des personnes les plus proches dans leur diversité d'un panel comme ça lambda de gens, y compris voilà les spectateurs, de se dire on ne vous raconte pas l'histoire de gens exceptionnels qui ne vous ressemblent pas.
Attends Thomas, juste là-dessus, parce que ça m'a... Moi, c'est cet élément-là, justement, je me demandais si, en montrant la limite de ce qui pouvait être obtenu quand on est comme ça confronté à la violence d'État, quelque part, vous n'exprimiez pas quelque chose de l'ordre de l'appel à l'insurrection. de votre point de vue. Parce que vous dites finalement, par l'œil de ces personnes qui se retrouvent militantes de fait, que quand on se limite à ce qu'on estime être le bon droit et la justice établie, finalement on se fait marcher dessus.
Le spectacle, il s'inscrit de façon tout à fait consciente et assumée dans notre perception d'un moment politique où on est à la fois dans l'attente et l'espoir que le droit puisse encore être la solution à un certain nombre de problèmes, d'où l'importance de la figure du rapporteur. Et dans le même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, la capacité du droit à s'inscrire dans le réel, elle n'est pas forte toute seule. Hein. Et donc, je pense qu'on a les deux pieds, on doit avancer sur les deux pieds, c'est-à-dire paradoxalement deux pieds peut-être opposés, celui du droit et celui de ce qui est l'antinomie du droit, c'est-à-dire la désobéissance au droit. Mais c'est peut-être par la désobéissance au droit qu'on peut le plus aider le droit. Enfin, en tout cas,
oui, inventer d'autres droits aussi.
Absolument. Bon, ce qui est l'histoire des rapports entre législation, désobéissance civile, insurrection. Mais oui, enfin, en tout cas, cette dialectique entre croire dans la puissance du droit face à la force et en même temps être convaincu qu'il va falloir aider le droit pour qu'il trouve sa nouvelle force, oui, c'est un petit peu dans cette dialectique entre ces deux concepts que les personnages se répartissent leur dialectique.
But you're sleeping.
Deuxième morceau de la soirée, When I Speak de Joe Alice. Nous sommes toujours en compagnie de Myriam Marzouki pour parler de sa pièce Je me souviens de la Terre jusqu'au 30 mai au Théâtre de la Concorde.
Et le moment de changement de plateau, très réel, qui se fait à vue par des techniciens qui suivent exactement la phrase « qui ne rêve pas est déjà mort », semble nous dire qu'il faut voir de la poésie dans le plus banal, dans le plus trivial, dans le plus quotidien. Qu'il faut penser que ça pourrait être autrement que ce que c'est. Est-ce que c'est la clé pour vous d'un théâtre documentaire qui se respecte? Est-ce que c'est l'un de vos mantras? Est-ce que ce n'est pas votre manière à vous de répondre à une autre phrase du spectacle « La radicalisation fait peur aux gens » en montrant que l'image, et l'image théâtrale pour le coup, peut soutenir le propos, offrir un espace de rêve là où le discours politique pourrait devenir trop frontal? Autrement dit, quelle place vous donnez à la beauté dans un spectacle qui traite de violence politique?
Une place centrale.
Ben oui.
une place centrale, c'est-à-dire que vraiment, moi j'avais ce désir d'un spectacle qui soit un voyage visuel, qui soit un déplacement à travers des représentations qui nous nourrissent, que ce soit le film de genre, le roman d'aventure. Voilà, moi j'avais des images de Les Révoltés du Bounty, j'avais les romans de Robert Louis Stevenson, j'avais les images de Bill Viola, j'avais la peinture flamande, j'avais la musique. Tout ça a nourri le fait de se dire que ce n'est pas parce qu'on parle de questions politiques qu'on doit se priver de l'image qui nous emmène ailleurs. Cette idée que le poétique serait sans colonne vertébrale sociale, que le poétique n'aurait pas d'ancrage dans les questions de droit, de violence, c'est une vue de l'esprit. Enfin, je veux dire, sinon, c'est le poétique, le poétique qui n'est pas le poétique des poètes. C'est un poétique de publicité. La poésie, c'est la manière de déployer autrement ce qui est notre monde. Donc, pour moi, les deux sont absolument indissociables parce que sinon, on a une poésie qui, pour moi, n'a pas de corps. Faire un spectacle politique dans lequel on serait simplement dans l'énonciation de faits. On a les livres pour ça, on a les documentaires. L'endroit du plateau, c'est quand même un endroit magique. Et je crois que c'est un endroit qui est aussi un endroit très précieux dans ce moment, voilà, où on nous parle de nos remplacements par les intelligences artificielles, les machines, etc. C'est-à-dire la capacité à fabriquer en temps réel avec l'ensemble des artistes, des techniciens, des savoir-faire du théâtre. Pour moi, c'est toujours un émerveillement. C'est-à-dire le moment, par exemple, où un plateau s'éclaire, le moment où la lumière arrive en répétition, c'est un moment extraordinaire. Et je crois que les spectateurs vivent vraiment, d'où le fait que, par exemple, ce changement de plateau se fait à vue. Parce que, par exemple, transformer un plateau, voir comment, avec très peu de choses, on peut transformer un espace qui est matériellement, voilà, à quelques mètres, moi, j'adore ça. J'adore ça, je trouve que c'est un endroit qui est sans doute lié à l'enfance, mais en même temps, moi je suis extrêmement admirative et j'aime beaucoup le théâtre parce que c'est un travail collectif, c'est-à-dire travailler avec la scénographie, la lumière, les costumes, fabriquer, être dans le faire. Donc voilà, pour moi la poésie elle est artisanale aussi. Et c'est ça que je trouve le plus magique, hein, l'artisanat de la poésie au théâtre.
Mais moi, j'ai l'impression, à vous entendre, ça me ramène dans mes cours de grec. Poésie, ça vient de poein, hein, c'est l'autre faire. Quand vous dites ça, justement, on est loin de l'art pour l'art, une esthétique. Ce que vous avez dit au tout début de notre interview, hein, vous avez dit que non, c'est pas le but, c'est pas de faire des images, c'est de garder du sens, en tout cas, de ramener le sens. J'ai l'impression que c'est ça que vous tenez, en fait, hein, dans votre spectacle, c'est-à-dire que vous présentez une autre manière de faire. Alors elle est poétique, mais justement c'est quelque chose d'opératoire, c'est quelque chose d'efficient.
Oui. Moi je me pose toujours la question de savoir dans quelle humeur, dans quel état affectif on va laisser le spectateur. D'abord, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme déplacement affectif pendant le spectacle, et puis à quel endroit on va le laisser quand il va sortir. Et je me souviens pas des termes exacts. Enfin, il y a cette phrase de Maggie Marin que j'admire énormément et qui disait dans un entretien, elle disait, il faut être capable de produire une émotion, voilà, qui coupe la réflexion. Et puis l'instant d'après, laisser l'espace pour que la réflexion puisse revenir en disant, mais qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion. Et moi, c'est cette espèce de douche froide éventuellement, ou de choc des températures que j'ai envie de produire, c'est-à-dire un moment d'être ému, ne pas se priver de l'émotion, mais ne jamais couper l'émotion de la pensée. C'est-à-dire être capable de penser ce qui nous arrive et de pouvoir être comme ça, agi, ému, mu. Et à la fin, je me préoccupe beaucoup de savoir si on augmente ou si on diminue notre capacité, notre puissance d'agir. Voilà. C'est-à-dire que sortir d'un spectacle en se disant « Non mais voilà, il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus rien à faire. » Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Et en même temps, l'idée, c'est pas de donner des solutions, mais c'est que on ait été augmenté dans notre puissance de penser, dans notre puissance d'être ému, dans notre puissance, enfin qu'on ait envie d'aller vers les autres ou vers le monde ou juste d'aller marcher dans la forêt. Enfin, en tout cas, qu'on ait du désir, hein, voilà, susciter du désir.
Et même ça fait écho à ce que dit Castellucci, comme quoi le théâtre, c'est le moment où on sort du flux d'informations et que c'est ce moment proprement politique, puisque sorti du flux d'informations, on peut enfin penser à soi-même, mais aussi penser à soi-même en relation avec les autres, parce que le théâtre tout seul, ça n'existe pas.
Ouais.
Voilà. Et donc, il y a forcément du politique là, mais effectivement, le théâtre politique, en fait, voilà, selon Castellucci, il ne dit pas ce qui doit être fait, mais il nous produit un temps pour pouvoir penser le politique après.
Absolument.
La représentation.
Absolument, ouais. Et ce temps-là, il est à protéger aujourd'hui.
Bah oui.
Voilà, il est à protéger, mais c'est un temps qui est ce temps de la fabrication collective aussi. Enfin, en tout cas, c'est le propre du théâtre de ne pas pouvoir se faire seul. Et dans ce spectacle-là, en particulier, moi, je tenais à ce qu'il y ait du monde sur le plateau. C'est aussi une des caractéristiques de cette pièce, c'est que c'est une pièce pour 8 interprètes. Donc, ils sont tout le temps sur scène. Et c'est aussi un acte politique aujourd'hui d'arriver à réunir les conditions de production pour avoir 8 personnages, 8 interprètes sur scène. Voilà. Donc ça aussi, c'est un acte de dire qu'on a besoin d'avoir une incarnation, non pas seulement de héros individuels ou de seul en scène, hein, ou l'exhibition du moi, voilà, avec un artiste seul. Voilà, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas du tout, mais en revanche, de montrer un collectif, pour moi, c'est aussi quelque chose qui a un sens et qui a une beauté en soi, c'est-à-dire cette diversité des corps dont vous parliez tout à l'heure, elle est indissociablement politique, parce que simplement montrer des diversités sans les commenter, c'est déjà un acte, et en même temps, ça peut produire des images qu'un corps seul ne produit pas. Donc l'endroit poétique, il s'articule à chaque fois en même temps. Les choses sont toujours totalement liées. Le politique et le poétique ne se séparent pas, oui, dans mon travail.
Julien,
Non, moi je pense qu'on peut tout à fait s'arrêter là-dessus.
Thomas, une dernière question ?
Non, moi je pense qu'on est bon.
Très bien.
Oui, moi je pense que ça faisait une très belle conclusion.
Donc,
bon, bah, super, merci.
Merci beaucoup Myriam Marzouk d'être été avec nous ce soir.
Merci d'avoir invité.
Merci. Et donc, n'hésitez pas à aller voir la pièce au Théâtre de la Concorde jusqu'au 30 mai. Je me souviens de la Terre.
Et
merci.
Oui. Et les 12 et 13 novembre à Évry.
Absolument.
Très bien. Merci Julien.
Beaucoup.
Again, break out the mess again. Yeah, you send me running, you send me running.
Donc, maintenant, c'est le moment des chroniques.
Il s'agit d'une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Ce soir, on va vous parler des Brel, des Anne, Teresa, des Kersmacher et Solal Mariott au Théâtre de la Ville du 11 au 20 mai. On vous parlera aussi de l'avenir des reflets des Lazards du 19 mai au 20 juin au Théâtre de la Colline. Et on terminera avec la lettre de Milorau du 20 au 30 mai au Théâtre public de Montreuil, hors les murs. Mais on commence avec Brel. Thomas, c'est à toi.
Bon, alors ça, c'est terrible parce que je ne suis plus du tout objectif. Anne-Thérèse de Kersmacher, j'ai vu tellement de spectacles. Moi, je l'adore. C'est compliqué parce que je critiquais quelque chose qu'on... Voilà, je crois qu'elle pourrait faire n'importe quoi. Et avec Brel, le risque était immense. Hein. Brel, déjà, c'est un monument. La Belgique, la sueur, les porcs, les bourgeois, les putains, les larmes, les grands bras, les grands mots, la grande plainte. Il y avait de quoi produire un spectacle très bankable. Hein. Brel plus de Kersmacher. Pas trop de décors, un répertoire populaire, une grande dame de la danse contemporaine. Sur le papier, ça pouvait être magnifique ou parfaitement plombant. Et d'ailleurs, c'est parfois un peu les deux. Mais c'est justement là que ça devient intéressant. Car de Kersmacher ne vient pas illustrer Brel. Elle ne vient pas faire la chorégraphie des chansons comme on ferait une animation de karaoké pour public cultivé. Dès le départ, elle pose une règle. La danse ne redira pas le texte. Elle le déplace, le contredit parfois, l'écoute de côté. En fond de scène, un écran diffuse les paroles, mais là où ce dispositif est souvent d'une laideur fonctionnelle, comme si PowerPoint avait fait un stage en dramaturgie, ici l'écran est pensé graphiquement, le texte n'est pas seulement là pour être lu, il est placé, typographié, travaillé. Rien n'est neutre, tout fait signe. Évidemment, chez De Kersmacher, même une virgule a probablement une structure mathématique. Alors on retrouve aussi ses vieilles habitudes, hein, et je dis cela avec tendresse, comme on parlerait des manies d'une tante géniale mais légèrement autoritaire. C'est un peu comme ça que je la vois. Entendre la musique, puis voir le mouvement sans la musique, puis remettre les deux ensemble. Le processus n'est pas mécanique, hein, mais il affleure. Elle montre comment ça se fabrique, elle rappelle que danser ce n'est pas épouser une chanson mais négocier avec elle. Et il y a de l'humour, beaucoup plus qu'on ne pourrait imaginer. Un micro est là, elle s'avance, on croit qu'elle va parler, peut-être chanter, peut-être nous offrir un moment d'aveu. Elle arrive au micro, ne dit rien, fait demi-tour. C'est sec, malin, presque enfantin, et comme la chanson parle d'une fille qui danse, évidemment on se dit, mais c'est elle, qui d'autre ? Elle porte un costume d'homme, trop grand, gris, fade, elle refait certains gestes signatures, ceux que l'on connaît depuis Phase. Elle revient sur son passé, mais sans commémoration solennelle. Brel devient un écho, un miroir un peu cruel, une matière à affective, et bien sûr le tube impossible à éviter, ne me quitte pas. Elle l'expédie dès le début, elle s'en sert pour initier la danse, comme si elle disait, voilà, c'est fait, maintenant on peut travailler. Et alors elle fait une mise à nu, hein. Elle se met toute nue, Et le corps, son corps, fait écran autant qu'il se dévoile à la bouche de Brel. Et cette vulnérabilité surprend parce que De Kersmacher, aujourd'hui, c'est une figure qui règne sur la danse contemporaine avec tout ce que règne suppose comme puissance, d'autorité, mais aussi d'ombre. On voit ses cheveux blancs, sa silhouette sèche, presque une sorcière. Et franchement, la bonne heure. Sur l'écran, une Belgique inondée en noir et blanc, des animaux morts, une catastrophe, tout n'est pas rose. Et Brel, de toute façon, n'est exactement pas un antidépresseur. On n'est pas dans le fanservice, on est dans quelque chose de plus trouble, une artiste qui accepte de revenir sur elle-même sans se transformer en statue de commandeur. Face à elle, Solal Mariott danse magnifiquement. Jeune, vif, virtuose, drôle, il prend la lumière, elle reste parfois en retrait, ils dansent peu ensemble. Ou plutôt, ils coexistent, ils se croisent, ils se juxtaposent comme deux clowns tristes, deux personnages de Beckett échoués dans un tour de chant belge. Et cette distance est belle, les ombres sur les murs peuvent rappeler Piano Phase, mais ici, elles ne se rejoignent plus vraiment, le passé revient, mais il ne se reconstitue pas. Alors oui, il y a des limites, il y a un petit côté karaoké chic, même si personne ne chante dans la salle, parce que le public du Théâtre de la Ville, ça reste le public du Théâtre de la Ville. Ah, il pourrait mourir plutôt que de fredonner Brel à voix haute. Et puis ça tourne parfois moins rond Brel en continu, il faut bien l'avouer, c'est beaucoup. Et si on nous laissait le choix, on n'écouterait peut-être pas 10 chansons d'affilée. Hein. Il y a de la lassitude. Mais soudain, quelque chose advient quand De Kersmaeker chante « Toi, si tu étais le bon Dieu ». Le spectacle trouve une émotion folle, alors pas une qui déborde, hein, pas le grand pathos brélien avec les bras ouverts, le cœur posé sur la table, non, quelque chose de plus discret, de plus grave. On peut imaginer l'évocation d'un deuil qui passe pas, d'une perte ancienne, d'une intimité qui affleure, on sait pas, mais en tout cas c'est là, cette émotion. Et ben voilà, moi je vous le dis, j'ai aucune objectivité, hein, je l'avais annoncé, mais alors parfois l'absence d'objectivité a du bon, bah, elle permet de reconnaître ce qu'un spectacle fait à ceux qui l'attendaient déjà. Brel n'est pas parfait, il fatigue un peu, il insiste, il s'attarde, mais il a cette beauté rare, celle d'une artiste immense qui accepte d'être drôle, vieillissante, vulnérable, souveraine et démunie à la fois. Et franchement, bah moi, ça me suffit. Et toi, Camilla ?
Mais écoute, moi aussi, je ne suis pas objective du tout. Mais pas pour les mêmes raisons que toi, Thomas. Pas pour les mêmes raisons que toi. Et non, je ne l'ai jamais trouvé plombant. Ces spectacles. Jamais. Et 10 chansons passent trop vite. D'accord ? Parce que moi, ben, Brel, je l'adore. Apparemment, c'est des goûts de grammaire, mais moi, je l'adore. C'est un de mes chanteurs préférés. Quand j'écoute Brel, moi, c'est la vie. Donc, bref, Brel. Donc, on voit cette femme et cet homme sur un plateau vide, les lettres, un rond de lumière et la voix de Brel comme sur le décor. On commence avec Les Diables, ça va, et on traverse une partie du répertoire des Brel, passant par des chansons plus ou moins connues, dans une sorte de narration de l'âme humaine qui nous laisse profondément émus par sa poésie. Et par ces deux corps, c'est vrai qu'ils font penser un peu à deux personnages de Beckett, genre Willy Winnie, parfois, ouais. Et qui, comme de l'argile, traduisent avec deux rythmes différents les mots de Brel sur scène. Et comme Thomas, j'ai trouvé que ces deux corps, j'ai trouvé vraiment très beau de voir cette différence entre ces deux interprètes sur scène, ouais. Leur façon, leur rythme différent et sur leur énergie. Et j'ai trouvé ça que ça crée une sorte de dichotomie déchirante. Il y a plusieurs moments de grâce, mais effectivement, comme tu en as parlé tout à l'heure, ne me quitte pas, quand elle s'est mis à poil, ouais. Et on voit cette bouche de Brel sur son dos avec ses cheveux argentés, c'est incroyable. Mmh. Et à la fin, quand elle fait le chien comme ça, mais c'est tellement beau, c'est vraiment un moment. Voilà, je ne sais pas comment on peut. Comment on peut oublier ça. Bref, donc j'ai adoré et. J'adorais, mais mince, j'ai perdu mon fil. Donc, pour moi, c'était un absolu moment d'extase. Et c'est une pièce d'une poésie délirante. Il nous fait voir, entendre Brel autrement. Il nous fait revenir sur ses textes. L'effet de voir ses mots projetés sur scène nous fait comprendre à nouveau toute sa force. Et on mesure à quel point ses chansons, sans jamais perdre leur simplicité, ni leur adresse directe, peuvent toucher par moments une poésie puissante, mais jamais avec de l'emphase, jamais avec prétention, toujours avec cette sensibilité rare, cette côté humble qui me bouleverse. Donc voilà, vous ne pourrez pas le voir parce que c'est fini, mais mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu cet été à la carrière des Boulbons, parce que franchement, au Théâtre de la Ville, c'était incroyable, mais je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça devait être de voir ce spectacle entouré par la pierre, la nuit, tous les jeux des ombres dans ces décors magnifiques. Oui, mais on s'en fiche de la chaleur, on a bien demandé tout ça. Et donc, je pense que ça devait être une expérience absolument spectaculaire. Voilà. Et qui est sûrement devait retrouver un sort de dimension sacrée à la carrière de Boulbon. Donc, merci. Anne, Thérèse, des Kersmaeker pour ce spectacle et Solal Mariott. Oui. On passe maintenant à la deuxième chronique de la soirée et donc on va au Théâtre de la Colline avec Alice et Julien pour parler de la nouvelle pièce des Lazare, L'avenir des reflets, que vous pouvez voir du 19 mai au 20 juin.
Alors, effectivement, L'avenir des reflets, ça m'a semblé un petit peu énigmatique comme titre. C'est vrai que La Colline, avoir vu plusieurs pièces, je me suis dit ça va être forcément bien. Cette création est écrite et mise en scène par Lazare. Déjà rien que le nom. Bon, c'est vrai que je fais souvent attention au titre et au nom des gens. Lazare, c'est pas le compagnon de Don Quichotte.
Non, Lazare, c'est tout ça, c'est Anne à mort.
Lazarillo de la Tormes.
Par Jésus.
Lazarillo de la Tormes. Enfin, je sais pas. Ça m'a fait penser au théâtre épique.
Sancho Panza. Panza.
C'est ça. Oui, pardon. Alors, je me suis complètement trompée de temps et d'époque, mais c'est un peu le ton justement de cette pièce. C'est une œuvre poétique et politique. En bref, c'est l'histoire de personnages connus de la grande histoire. On s'en fout un peu. Enfin, c'est pas vraiment une reconstitution historique. On s'en fout un peu de qui est qui. On suit leur trajectoire, traversant l'histoire sans que cela ne soit une reconstitution historique. C'est comme une histoire collective qui prend un visage humain par ses grandes figures. Une histoire vivante où tout serait encore jouable. Les personnages révolutionnaires se croisent à différents moments de leur existence réciproque. Serait-ce le reflet des Lumières ? Miroir d'une époque à traverser pour en comprendre le sens avec beaucoup de liberté. L'histoire part un peu dans tous les sens, ça me plaît, avec l'énergie de ces personnages de caractère réunis par l'amour de l'écriture. Révoltés par le sort de la misère, de l'injustice, du despotisme, désespérés par le sort des femmes, on rencontre Olympe de Gouges, qui a une grande part dans la pièce, une place importante, femme de lettres et figure d'émancipation, sans cesse contestée. On y croise Marat, journaliste savant, Anne-Joseph témoigne de Méricourt, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ici, Robespierre pour les plus virulents, Lafayette, et Marie-Antoinette et son roi Louis XVI pour les plus opulents. Les femmes de caractère ont enfin leur place pour être entendues. On assiste à l'avènement des idées révolutionnaires, l'abolition de l'esclavage, l'idée d'une égalité de droit entre hommes et femmes, l'abolition de la peine de mort. Le ton est enlevé, un peu comme celui d'un théâtre burlesque, une farce avec plein d'anachronismes, des allées et venues entre musique savante et populaire, costumes anciens et d'aujourd'hui. Au début de la pièce, la naissance des personnages se fait un peu comme la distribution des rôles dans une fête foraine. C'est le théâtre dans la vie. Et si la création pouvait changer le cours de l'histoire, c'est ça que je me suis demandé en plein cours des choses. C'est bien cela sa force. Qu'est-ce qui se jouerait alors ? L'écriture a cette force. La force ne nous laisse pas en reste. Enfin, pardon, je voulais dire la farce. Je reviens à la farce. Au cours de la distribution des rôles, là, pendant la naissance, en début de ces personnages, on voit un petit corps de nourrisson et la tête des acteurs dépassés. Vous savez, comme dans les fêtes foraines. Et je me suis demandé si les hommes sans particules ne sont-ils pas réduits qu'à des pantins. Les choses ont-elles beaucoup changé aujourd'hui ? On pourrait dire que la répartition des richesses se pose à toutes les époques. Et Bolloré, d'ailleurs, s'en prend plein son grade. Soit dit en passant, je ferme la parenthèse. J'avais ouvert une longue parenthèse, mais j'ai encore du temps ou pas ?
Pas beaucoup.
Ah, voilà. Je me concentre.
Oui.
Le reflet de l'avenir, donc, une farce de l'histoire que l'on sait être tragique, puisqu'ils ont tous été décapités, ça on le sait, mais ce n'est pas vraiment représenté dans la pièce. Ou alors assez rapidement. Alors pourquoi ce parti pris de la douceur ?
Non, il a été poignardé.
Marat, on le voit dans son bain quand même en début de pièce.
Il n'a pas été décapité.
En tout cas, il baigne dans son sang en début de pièce. Bref, tu m'as fait perdre le fil. Donc c'était bien, un peu trop retenu à mon goût. C'est vrai que le parti pris était plutôt celui de la douceur par Lazare. Moi, j'avais adoré la justesse de la troupe du Monstrum dans le Macbeth. Ce Shakespeare revisité,
attends.
Monstre. Et puis vas-y, dernièrement, Alice. On a aussi vu avec Julien la pièce L'Ordre du Jour à la Comédie Française qui racontait aussi la grande histoire comme une histoire que l'on ne prend pas assez au sérieux. Et les ressorts du nazisme nous pendonnaient là aujourd'hui. Et c'est vrai que là, dernièrement, les pièces qu'on a vues, c'est le ton de la farce qui en ressort et j'ai l'impression qu'on en est bientôt les dindons. Alors, soyons vigilants. Et puis, luttons face à nos despotes milliardaires. Voilà.
Merci Alice. Et Julien, toi, tu en as pensé quoi très vite ?
Alors, j'ai beaucoup aimé. C'est oui. Vraiment très drôle. Je trouve que, de toute façon, même s'il n'y avait que ça, le fait d'humilier Lafayette suffit à rendre cette pièce formidable. Il faut toujours humilier Lafayette. Merci à Lazare. Merci à l'ensemble de cette troupe. C'est formidable.
Merci Julien, merci Alice pour cette chronique. Donc n'hésitez pas à aller au Théâtre de la Colline pour voir cette pièce. On passe à notre dernière chronique, la lettre d'Émile Aurao du 20 au 30 mai au Théâtre public de Montreuil. Thomas, on t'écoute.
Il faut d'abord saluer l'initiative du Théâtre public de Montreuil parce que programmer du théâtre dans les lieux non dédiés sur le territoire même de la ville, c'est pas seulement une jolie intention inscrite sur un dossier de subvention avec des mots médiation, proximité et public éloigné en police 12. C'est une vraie idée de théâtre, une idée simple, concrète, presque politique, faire sortir le théâtre de son bâtiment, aller là où les gens vivent, où les associations travaillent, où les chaises ne sont pas toujours parfaitement alignées, dernier où l'on peut se demander pendant 5 minutes si l'on est bien au bon endroit. Ben, on est au bon endroit. Hein. Et 1000 euros avec sa lettre, eh bien, il travaille le théâtre comme désir, comme héritage, comme bricolage, comme rêve reçu et transformé. Le spectacle part d'une lettre, une lettre d'une mère à sa fille, lue par l'arrière-petit-fils de cette mère. Cette fille aurait voulu être actrice, elle ne l'a pas été. Lui, l'arrière-petit-fils, a réalisé ce rêve par procuration, fidélité ou revanche familiale, on ne sait pas. Et il veut aller plus loin, travailler sur la pièce fétiche de son aïeul, la mouette de Tchekhov. Face à lui, une partenaire de jeu qui a elle aussi son rêve, jouer Jeanne d'Arc, quand bien même elle est noire, née de parents camerounais. Toute la pièce se niche là. Qui a le droit de jouer quoi? Qui hérite de quel rôle? Qui entre dans le grand magasin du répertoire et qui reste à la porte? La lettre est une commande, hein, passée dans le cadre du Festival d'Avignon. Ce n'est donc pas forcément le spectacle qui résume toute l'œuvre de 1000 euros, mais justement, il y a quelque chose de réjouissant à le voir en format léger, presque portatif. 1000 euros de poche, 1000 euros pliables, 1000 euros qu'on pourrait transporter dans un tote bag entre une enceinte, une pancarte et deux costumes. Et pourtant, on reconnaît ses obsessions, hein, le théâtre qui se regarde faire, la représentation qui interroge la légitimité, la violence qui surgit au milieu du jeu et ce goût pour l'humour potache presque idiot quand un acteur se fait tirer dessus et que contre toute attente, ça fait rire. Bah, c'est bête, oui, mais très efficace. Et parfois, au théâtre, une bêtise efficace vaut mieux qu'une grande idée mal assise. Ce qui fonctionne surtout, c'est la rencontre de deux interprètes. Ils semblent venir de deux spectacles différents et c'est précisément pour cela que ça marche. Lui piétine, déborde, surjoue, cabotine parfois comme s'il voulait rattraper en intensité tout ce que son arrière-grand-mère n'a pas pu jouer. Elle, au contraire, est fine, précise, sobre, très juste, jamais démonstrative. Il agite le théâtre comme un drapeau. Elle le tient, le théâtre, comme une lame. C'est magnifique pour ça. La pièce aussi est habile parce qu'elle parle à plusieurs publics. Le festivalier cultivé, mais aussi nous, en fait, les spectateurs lambda, hein, ceux qui acceptent de dire qu'ils n'ont pas relu tout Tchekhov hier soir. Et il y a des moments participatifs à peu de frais, et c'est très bien, on nous demande de crier comme Guignol « Derrière toi, derrière toi !» La salle obéit avec une joie presque enfantine. Un spectateur recruté pour passer des pancartes indiquant les titres des scènes découvre même en direct le plaisir trouble de l'apparition publique. 3 secondes de plateau et déjà l'ivresse du pouvoir. Le décor ne cherche pas à impressionner, une enceinte trône sur un guéridon, placement de produit. En fond de scène, il y a les couleurs du drapeau français, puis la musique de Brel qui nous ramène vers la Belgique. Hein. Oh, Anne-Thérèse. L'Europe, ce passé colonial, voilà, il y a plein de choses. Et puis, il y a de l'émotion. Ah bah oui, une vraie émotion franche, quoi. Parce que ce qui touche, c'est qu'il y a une intimité qui n'est pas sacralisée. Cette lettre familiale, elle aurait pu devenir un mausolée sentimental. Elle devient ici un moteur de jeu. On rit de bon cœur, on se sent chanceux de recevoir cette histoire privée qui s'ouvre sans impudeur. Et surtout, on voit le théâtre se fabriquer avec presque rien, des bouts de ficelle, des artifices de pacotille, une lettre, une envie de jouer, deux acteurs qui ne jouent pas du tout pareil et un public qui finit par faire exactement ce qu'on attend de lui, participer, rire, croire un peu, puis se regarder croire. Ben voilà, la salle se marre, le théâtre circule, ben mission réussie, 1000 euros.
Merci Thomas. Donc, je suis allée aussi voir la lettre des 1000 euros pendant les festivals de Murapèche. Donc, c'était dans un autre lieu par rapport à toi. Et je trouvais aussi, j'ai bien aimé ce dispositif, un peu comme tu dis, 1000 euros des poches, qui nous rappelle un peu un sort de théâtre populaire, un théâtre qui va de village en village avec un vrai adresse au public. Ces moments, effectivement, on demande au public des cris et tout ça, que moi, je déteste normalement.
Oui, on aime
mais
pas
là, j'ai trouvé ça presque mignon. Donc, presque. Effectivement, on part du théâtre avec les T majuscules, mais on parle aussi des rapports intimes de ces deux comédiens entretiennent avec les théâtres. Et j'ai trouvé ça très touchant, leurs deux histoires, la lettre qu'on entend à la fin, cette lettre de l'arrière-grand-mère qui m'a fait pleurer.
Bah oui.
Donc j'ai trouvé ça très bien, malgré le fait que je déteste entendre encore la moitié de Tchekhov, mais bon, on passe. Et après, oui, ces moments, les procès des Jeanne d'Arc, absolument incroyables. Donc il y a des vrais moments très touchant dans ces spectacles, malgré le fait qu'il y a aussi des longueurs, des moments que je n'ai pas compris, des moments qui nous font réfléchir sur les rapports entre réalité et fiction, par exemple l'appel à la mer des Olga. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles je me suis interrogée, qui m'ont un peu donné une sorte de nostalgie par rapport à d'autres spectacles des 1000 euros, plus documentaires, plus politiques, plus sociales. Mais bon, dans tous les cas, c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller le voir jusqu'au 30 mai au nouveau au théâtre public de Montreuil.
Dans des lieux qui bougent.
Mais moi j'ai juste
là,
un regret, Thomas.
De vous quitter.
Thomas, t'aurais dû caser le. Thomas, t'aurais dû caser le jeu de 1000 euros.
Oui. Bon, mais on se voit. Enfin, on se retrouve les 22 juin à 20h sur Radio Campus Paris. Bisous.
Ciao.